France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation littéraire consacrée à Joseph Conrad, à l'occasion du centenaire de sa disparition, en compagnie de deux auteurs qui en ont fréquenté l'œuvre, se la sont coltinée, l'ont parcourue au plus près de ses plis. J'ai nommé l'auteur de bande dessinée Maël et le romancier Yann Brunel. Bonjour Maël.
Bonjour Mathias.
Vous êtes dessinateur et maintenant aussi scénariste de bande dessinée. On vous doit notamment la série « Notre mère, la guerre » en collaboration avec Chris, que nous saluons au passage amicalement, déjà chez Futuropolis, ou « Notre Amérique », autre série, toujours avec le même Chris au scénario. Et là, vous vous êtes lancé, tout seul, avec Conrad, dans l'adaptation du roman, peut-être du chef-d'œuvre méconnu de Joseph Conrad, « Nostromo ». Et vous, Yann Brunel, vous êtes romancier, vous avez publié deux récits aux éditions Gallimard, « Homéomorphe » en 2022 et « Quatre ou cinq vies d'Ilia Grisov » paru il y a quelques mois. Et vous rédigez la préface à la réédition dans les cahiers de la NRF de l'hommage à Joseph Conrad, initialement paru dans la Nouvelle Revue Française à la mort de l'auteur. Très belle préface, d'ailleurs, qui reprend quelques traits de l'écriture de Conrad et notamment du « Cœur des ténèbres ». Yann Brunel, est-ce que vous avez toujours été un lecteur de Joseph Conrad ?
Pas du tout. Je suis tombé. Enfin, j'ai commencé par Nostromo, donc ça tombe très très bien. Mais j'ai dû commencer aux alentours de la trentaine d'années, donc c'est pas du tout un amour de jeunesse, disons.
Et vous, Maël, alors comment est-ce que vous avez découvert Nostromo ? Est-ce que c'était un vieux désir que d'adapter Conrad ?
Adapter Nostromo, c'est une idée qui m'est venue en le découvrant il y a une quinzaine d'années, mais c'est pas du tout le premier livre par lequel j'ai découvert Conrad. Et d'ailleurs, je pense que la plupart du temps, c'est pas vraiment le livre par lequel les gens découvrent Joseph Conrad. Et moi, ça m'est venu un peu par Hugo Pratt, en réalité. C'était une sorte d'envie de plonger dans les influences littéraires qui avaient un peu présidé à son œuvre, et finalement j'ai suivi au début beaucoup Jack London, Stevenson, Melville, etc. Ça c'est plus pour la jeunesse, hein. Mais j'ai découvert également Nostromo bien plus tard, à 30-35 ans.
Et c'est amusant parce que c'est une version, alors si on parle de Pratt, vous avez suivi presque une piste dessinée en fait de la littérature.
Oui, tout à fait, c'est valable pour pas mal d'auteurs américains que j'ai découvert, parce que souvent je lisais des bandes dessinées, j'entendais les créateurs dire qu'ils avaient été influencés par tel ou tel écrivain. Ça peut venir par le cinéma aussi, il y avait souvent des effets de rebond d'influence comme ça qui orientaient mes choix de lecture.
Alors on peut se dire que l'idée d'adapter Nostromo, ça ne vient pas de soi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas un roman extrêmement connu en France de Joseph Conrad, et puis ensuite parce que c'est pas si simple, c'est un vrai défi, c'est un roman très complexe dans sa structure même, un roman assez ardu où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de flashbacks, où c'est aussi l'histoire d'un pays en entier, un pays fictif d'Amérique du Sud, le Costaguana. C'est un roman dans lequel c'est pas très difficile de se perdre d'ailleurs, quand on le lit. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter précisément Nostromo ?
Ce qui m'a donné envie de l'adapter, c'est d'abord les images que ça faisait naître en moi. C'est vraiment un rapport de l'écriture à l'image pratiquement en prise directe, et ça arrive pas tout le temps. C'est-à-dire, vous pouvez lire énormément de bouquins dont vous vous dites ça pourrait faire une bonne adaptation, mais je dirais que pour un dessinateur, un critère important, c'est le moment où vous commencez, quand vous lisez le bouquin, à le voir quasiment dessiné par vos soins. Ça a l'air un peu présomptueux dit comme ça, mais ça s'est pratiquement imposé de cette façon. C'était très étrange. Certains passages de ce roman, je les voyais avec le dessin que je pourrais en tirer, quoi, avec les mises en scène que je pourrais exploiter, avec la bande dessinée spécifiquement. Donc c'est venu presque malgré moi, quoi. Alors ça n'a pas été facile parce qu'au début, c'est quand même, comme vous l'avez dit, un roman assez ardu, et je l'ai reposé une première fois. Je suis pas allé au bout et je l'ai repris deux ou trois années après. Et c'est là que j'ai compris que si j'y revenais, c'est parce que j'avais quand même une intuition visuelle, hein, une intuition narrative qui m'y emmenait. Ça fait partie de ces œuvres qui ont la réputation d'être inadaptables. Il y a un cinéaste, David Lean, qui s'y est brisé les ailes un peu.
Ah oui, les projets d'adaptation ont toujours été des échecs Peut-être parce que, justement, il faut tout plus ou moins un peu transformer, comme vous l'avez fait dans le temps, en tout cas.
Oui, dans tous les cas, c'était impossible d'imaginer une adaptation qui respecte cette construction très particulière de l'œuvre. Conrad, il appelle ça la vision oblique, je crois que c'est ces termes. Et c'est une façon, en fait, de cerner la réalité psychologique ou la réalité d'action qui tourne autour d'un personnage avec plusieurs points de vue ou plusieurs formes de récitatif, plusieurs récitants, plusieurs types de temporalité. Et en mélangeant tout ça, on arrive mieux à cerner les tenants et aboutissants des personnages et de leurs actions. Et en bande dessinée, on a assez rapidement un problème avec ce genre de construction hyper alambiquée. Je sentais qu'il fallait déjà que je rende le récit plus linéaire et que je trouve une ligne directrice, du coup, pour accompagner cet effort d'adaptation linéaire.
Ladies and gentlemen, we now enter the jungles.
Une des choses très étonnantes de l'œuvre de Conrad en général, vous savez qu'il a quand même navigué pendant 20 ans, c'était un marin, puis ensuite il s'est retiré, il a commencé à écrire. Alors il y a par moments, spécialement une victoire, on a l'impression que c'est écrit par un opérateur de cinéma, parce qu'il ne cesse pas de décrire la lumière, les changements de lumière, l'orage qui vient, la pluie. C'est très visuel. Et moi, je sais que à travers toutes ces années, j'ai comme ça des images. J'ai l'image de cette mine abandonnée, envahie par la végétation dans cette petite île des tropiques, cette jetée à moitié détruite qui s'avance dans la baie, ces bungalows. Et puis à l'intérieur du bungalow, il y a Heist a fait venir les meubles de son père de Londres. Alors c'est un décor complètement victorien. Alors c'est complètement fou parce qu'à l'intérieur, on a l'impression d'être. C'est un décor surchargé. Et puis en fait, c'est une baraque en bois à l'extérieur. C'est comme ça que mon adaptation commence. Du reste, on commence à l'intérieur. Et puis quand il sort, on s'aperçoit qu'on est dans une île tropicale au milieu de nulle part. Et il y a toujours ce contraste entre un homme finalement très raffiné et une végétation très, très agressive et très hostile. Et il y a un volcan qui est au-dessus, qui est un volcan c'est du reste pas facile à trouver, je ne l'ai pas encore trouvé, qui est un volcan en activité, comme il y en a encore quelques-uns en Indonésie ou dans les Nouvelles-Hébrides, enfin dans cette partie du monde. Alors il y a toujours cette présence, cette menace, cette espèce de masse noire du volcan qui est toujours au-dessus des personnages et qui les écrase un peu. Et je vois aussi bien les visages, les différents personnages, et c'est très présent et c'est très réel. Le problème, c'est que justement, le scénario et puis le film soient à la hauteur du rêve, quoi.
Nous venons d'entendre le cinéaste Louis Malle sur France Culture en 1979 parler de l'écriture si visuelle de Joseph Conrad. Maëlle, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Est-ce que finalement c'est facile, entre guillemets, d'adapter Conrad de ce point de vue-là, à cause justement de la précision de ses descriptions?
Oui, vraiment. Je trouve que c'est vraiment la puissance première de son écriture pour qui aime raconter en images, c'est que ce soit les paysages, mais aussi d'une certaine manière les personnages, il en éclaire un peu tous les aspects. Et c'est, comme on l'a entendu dans l'extrait, ça exerce une vraie fascination sur la création, parce que tous les éléments du paysage, des décors et de l'arrière-plan concourent à en faire quasiment des personnages aussi. Donc tout ça est très vivant, très organique et très évocateur. Alors c'est d'autant plus intéressant dans le Nostromo que le Costaguana n'existe pas. Donc on est là en prise avec une invention visuelle qui est probablement soumise à l'influence d'autres paysages réels qu'il a connus, notamment je pense la Colombie, mais on doit quand même soi-même imaginer, c'est-à-dire pas trop documenter, quoi. Essayer de se laisser un peu emmener vers ce que la littérature suggère et être aussi près que possible d'un rêve, quoi.
Mais alors, est-ce que vous isolez les éléments visuels dans l'écriture, justement, avant de vous mettre à adapter, à storyboarder, ou vous y revenez par la suite ?
Non, non, je les isole pas, parce que pour moi, ils sont vraiment entremêlés avec les personnages et l'aventure elle-même, ou l'action, la psychologie, tout ça est vraiment très entrelacé. Seulement, quand je lisais Nostromo, en fermant les yeux, je me voyais le dessiner, je voyais dessiner beaucoup les personnages dans des atmosphères particulières, par exemple. Et je voyais aussi de quelle façon, à un moment donné, il allait falloir prendre du champ et de l'espace-temps dans l'album pour donner à voir la lumière ou le paysage que je voyais, qui est d'ailleurs, je pense que c'est complètement différent de ce que Conrad peut-être essayait de décrire, mais moi j'ai mis beaucoup de Mexique dans ces paysages-là, ce qui est un peu hérétique, enfin disons en tout cas par moments inapproprié avec le côté plus colombien du décor au départ.
Oui, en théorie, en tout cas, entre la Colombie et le Panama, à l'époque, c'est l'escale.
C'est la fameuse escale avant création de Nostromo. Ouais.
Mais Nostromo, donc, on l'a dit, hein, c'est dans un pays imaginaire, le Costaruana, et plus précisément dans la province de Sulaco. Et il faut dire quelque chose de Nostromo quand même, le personnage mystérieux qui donne son titre au roman, Maël. Qui est Nostromo?
Alors Nostromo, c'est un marin génois qui a débarqué un jour sur ce port de la côte occidentale du Costaguana, qui s'appelle Sulaco, qui est une province prospère, isolée du reste du pays. Et ce marin est engagé comme chef des dockers, en gros. Et son extrême...
Capataz de cargadores.
Et son extrême compétence et sa grande capacité à diriger des hommes pour mener à bien des missions plus ou moins délicates font de lui une sorte de factotum, c'est-à-dire l'homme de main des riches, des puissants, c'est l'homme fiable, quoi. C'est pour ça qu'il acquiert ce surnom, Nostromo, Nostro Uomo, notre homme, qui un peu le dépossède de sa première identité, mais dont il s'enorgueillit pour finir. Il en est fier, en fait, de ce statut.
Mais si on prend le roman dans l'ordre, la première apparition, en tout cas, de Sulaco, c'est d'abord une description des lieux, et puis une histoire qui donne un peu son ton, que vous reprenez un peu tel quel, qui donne un peu le ton du récit, parce que Conrad aimait beaucoup ça, le procédé par petites touches, des petites choses qu'on retrouve plus tard, plus loin, et notamment cette histoire de ces gens qui se perdent à la recherche d'un trésor.
Oui, parce qu'en fait, cette histoire de Nostromo, c'est un personnage que moi je trouve très shakespearien, c'est vraiment de la dramaturgie au sens pur, c'est-à-dire qu'il veut s'élever au-dessus de sa condition, et il n'y arrive pas, ou en tout cas le prix à payer pour y arriver est plus élevé qu'il ne le croyait. Et en fait, sa trajectoire renvoie à cette légende de Gringos qui se serait perdu pour chercher un trésor, puisque lui-même va avoir pour charge d'éloigner un trésor de lingots d'argent de cette province menacée par une énième révolution. Et c'est, du coup, pour Conrad, c'est un motif, en fait. À chaque fois, on retrouve à plusieurs étapes clés du roman, on voit ressurgir cette légende, on voit ressurgir le thème de la malédiction, qui est en réalité, au fond, le thème de la corruption. C'est-à-dire, les intérêts matériels arrivent finalement toujours à corrompre même la plus noble des qualités humaines.
Mais le rêve de la fortune, la violence et l'argent, en fait, c'est un peu
Il y a une chose qui s'en tire assez bien dans le roman, c'est l'amour, mais c'est pas facile. Voilà, ça c'est disons d'un point de vue de l'humanité, on sent que cette chose-là, l'amour est quelque chose de très malmené, mais quand même à la fin, que ce soit du côté de Nostromo et puis des personnes qui ont de l'affection pour lui et aussi d'un autre personnage qui s'appelle Madame Gould, Emily Gould, c'est vraiment des personnages qui montrent que le fond de leur âme amoureuse n'est pas souillée par la malédiction de l'argent.
La malédiction de l'argent et de la politique, c'est aussi une des grandes questions de Nostromo, c'est la violence politique, le pouvoir en règle générale, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des armes, le pouvoir de la politique et le pouvoir du désir. Finalement, c'est un peu ça le cadre de Nostromo, Maël.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est du point de vue de Conrad, d'ailleurs, ça m'a au début un peu déstabilisé parce que dans ses interventions, ses récitatifs, et son intervention narrative. Le peuple, par exemple, s'appelle la populace. Enfin, bon, après, il y a des traductions qui vont traduire ça un peu différemment, mais il met en jeu dans l'esprit de ses protagonistes et parfois même dans les narratifs des termes qui sont parfois péjoratifs sur ce. Et cet aspect-là m'a intéressé parce que je me suis dit finalement, Nostromo a des origines populaires et en fait, il aspire à s'en distinguer, mais à la fin, enfin, toute sa trajectoire, c'est une longue prise de conscience que sa vraie nature, elle est là et qu'il faut l'accepter. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est comme un transfuge de classe, un peu, ce personnage.
Oui, et puis il y a aussi des histoires en rapport avec l'Italie. Enfin, il y a énormément
voilà,
de choses là-dedans.
Il y a les puissances étrangères, anglaises, américaines, qui apporterait les capitaux qui assureraient la stabilité. Donc en fait, in fine, on laisse entendre que ce continent centra-américain, il est perdu dans l'anarchie si on n'y apporte pas de l'argent, de l'ordre, de la morale, une société bien rangée.
Oui, alors que l'argent est là. C'est justement
absolument.
Argent
mmh.
ou argent, métal, que ce soit le métal, les lingots d'argent, vous les dessinez très bien d'ailleurs, ils sont très beaux vos lingots d'argent. La couleur est absolument, absolument parfaite, on a presque l'impression de les toucher. Et Maël, comment est-ce qu'on adapte Nostromo ? C'est-à-dire, il faut le lire 100 fois, faire des fiches découpées, comment est-ce qu'on passe, ça a l'air d'être une opération longue et complexe en fait, de passer du roman de Conrad magnifique album dont on lit le premier tome aujourd'hui.
J'ai pris beaucoup de notes qui étaient des notes d'intuition, c'est-à-dire justement quand une scène frappait mon esprit et qu'il y avait notamment des idées d'atmosphère, de mise en scène, des choses qui généraient des images, j'essayais de m'en souvenir et de les noter. Et donc là, la mémoire travaille dessus après. Et puis, pour être quand même plus organisé, j'ai établi une sorte de chronologie linéaire avec en parallèle la trajectoire de Nostromo, la trajectoire d'autres personnages et comment s'enchaînent les événements. Parce qu'en fait, dans ce récit, les événements sont enchâssés les uns dans les autres et il était impossible pour moi en bande dessinée à la fois de tous les garder et encore moins de les garder dans cet ordre qui est très littéraire et assez peu présentable en bande dessinée.
Et alors comment est-ce qu'on procède ?
Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai établi cette relecture linéaire, j'ai quand même repris au début dans la construction de ma proposition en bande dessinée un peu des retours flashback, flashpost de Conrad, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'intéresser un lecteur, c'est quand même de jouer un peu avec lui et de lui proposer de la déduction. Donc je me suis dit, ce jeu que Conrad nous propose, on peut en garder un peu la substance en bande dessinée jusqu'au moment où après il faut établir un séquencier avec... Pour moi, c'était important de garder en particulier les scènes qui allaient éclairer la dramaturgie spécifique de Nostromo. C'est-à-dire ce personnage qui est pour moi un mélange de, je sais pas, de Corto Maltese, de Hamlet,
oui.
Icare. Enfin, je voulais que sa dramaturgie soit éclairée par tout ce que l'intrigue révolutionnaire concentre de moments de tension autour de lui.
Même si Conrad, on l'a vu, donne des pistes presque pour l'adaptateur à partir de d'éléments beaucoup plus visuels. Et puis bon, l'histoire, on peut quand même la reconstituer, même si, et j'ai trouvé que c'était presque mieux dans l'adaptation que dans l'original de Conrad, on comprend bien mieux ou plus facilement les éléments politiques, en tout cas, qui sont dans le début du roman de Conrad, laissés peut-être volontairement confus pour pouvoir les dévoiler ensuite.
Alors, je suis content que ça ait eu l'air plus limpide comme ça, parce que c'était un des gros enjeux de l'adaptation aussi, c'était de simplifier en trahissant, en altérant le moins possible. Par exemple, dans le coup d'État qui précipite les événements, il y a deux frères. Et moi, je ne pouvais pas facilement incarner l'antagonisme avec deux frères, dont l'un est en plus une vague évocation qui reste derrière les montagnes là-bas. On le voit peu apparaître dans l'action, et c'est son frère qui franchit les montagnes. Pour moi, c'était un seul et même personnage. De même, les capitaux étrangers, anglo-américains, effectivement, c'est assez trouble hein, dans le début du roman, et j'ai fait en sorte qu'un seul personnage les incarne, plutôt que de renvoyer au duo, ou on pourrait dire au trio, parce qu'en fait, en vrai, souvent, il y en a trois. Trois personnages qui l'incarnent dans le roman, c'était trop. D'autant que ces évocations-là, moi, je pouvais m'en passer. Je pouvais avancer dans l'intrigue, en gardant vraiment l'ossature créée par l'urgence C'est-à-dire, en gros, des révolutionnaires arrivent, vont franchir les montagnes. Cette province est menacée, en tout cas, les notables qui constituent la gouvernance de cette province pensent qu'il faut la sauver. Et un moyen de la sauver, c'est qu'elle est riche de sa mine d'argent, tenue par un Anglais natif du Costaguana.
Oui, voilà, effectivement.
Là, on simplifie, quoi. Une fois qu'on a présenté les choses comme ça, on dit, bon, bah, les enjeux sont là. Les riches veulent sauver leur peau. Et une des solutions, c'est peut-être de garder une main sur le trésor et pourquoi pas de faire sécession.
Alors, ce qui est très frappant, quand on lit l'adaptation, alors j'ai relu évidemment le début du roman pour voir à quel point les personnages ressemblent aux personnages de Conrad, c'est-à-dire ce personnage de la vieille femme italienne qui apparaît dès les premières pages du roman et de l'adaptation. On a l'impression qu'elle est sortie du livre pour passer directement dans les couleurs de Maël.
Ben, merci beaucoup. C'est très fou parce que ce personnage, par exemple, vraiment existait dans mes pensées quand je lisais le roman, vraiment sous cette forme-là, avec les traits qu'elle a dans l'album que vous pouvez découvrir, avec cette corpulence, avec ses paupières lourdes, avec son air de madone perpétuellement en colère ou en tout cas à la fois maternelle et prophétique, quoi. C'est une sorte d'oracle un peu dans l'histoire.
Alors Maëlle, il faut dire quelque chose aussi des couleurs qui fonctionnent comme un élément de narration. Alors ça, on sait, c'est comme ça chez vous. On retrouve ces couleurs directes absolument magiques qui donnent aussi un rythme au dessin, qui font plus que l'accompagner, qui sont vraiment là. Et on peut voir par exemple le rouge, le pouvoir, les décorations, l'écharpe du dictateur, les fauteuils. Enfin bref, il y a énormément de retours comme ça de la même couleur.
Oui, ça c'était merveilleux pour moi de pouvoir établir une espèce de grammaire des aquarelles et des atmosphères et des couleurs employées comme ça pour effectivement créer aussi un peu de motif graphiquement et puis jouer avec l'aquarelle des atmosphères de lumière. J'étais heureux de pouvoir le faire parce que dans mes récits avec Chris, dont on parlait en introduction de cette conversation, on a été beaucoup dans la grisaille des tranchées et un petit peu au Mexique pendant la série qui s'appelle Notre Amérique. Et c'est pour ça aussi sans doute que quand je préparais mon adaptation, des visions du Costaguana ont pris la forme de visions influencées par des paysages mexicains que j'avais un peu étudiés dans mes carnets. Et après, l'usage narratif de la couleur, là où il devient le plus radical, c'est dans la dernière partie de mon adaptation, qui était vraiment la scène clé, la scène de césure. Et je voulais vraiment que ce premier volume se termine là-dessus. C'est une scène de nuit. Nostromo est sur un bateau avec un autre personnage, un journaliste, et leur mission, c'est de mettre les lingots à l'abri sur un cargo en haute mer. Et alors, cette scène-là, quand j'ai lu le roman, rien que pour cette scène, j'aurais presque décidé d'adapter le roman. Encore fallait-il être capable d'imaginer quelque chose de bien pour la suite. Mais cette scène-là, elle tenait la corde, vraiment. Et elle la tenait depuis longtemps.
Alors c'est une scène grise, justement.
C'est une scène grise. Elle est gris-bleu et la couleur s'éteint. Mais le drame s'intensifie et se resserre. C'est un huis clos, quelque chose comme une 16 pages, ce qui est assez volumineux dans un album... qui en compte 120, quoi. Et son rôle à cette scène aussi, c'est de précipiter un petit peu le basculement du personnage principal. Donc je voulais aussi que son traitement chromatique ait l'air un peu crépusculaire, comme ça.
Dans ces couleurs, il y a un exemple assez extraordinaire. C'est le pouvoir, toujours le rouge, pourpre, mais du désir. Mmh. L'amour, la jupe et les fleurs de Paquita. L'amante de Nostromo. Alors, Paquita, c'est génial parce que c'est cette scène argent et rouge avec un couteau et des boutons. C'est Mérimée. C'est absolument Carmen.
Oui, c'est tout à fait ça. Exactement. C'est de l'opéra. Enfin, j'ai tendance à penser que Nostromo, c'est quand même un peu comme une sorte de grande pièce de théâtre ou d'opéra, des grands espaces. Il y a beaucoup de scènes ou de situations qui ont ce genre de déploiement romanesque et avec de beaux gestes et avec du coup, peut-être un côté par moment presque outrancier du costume. On pousse un peu les curseurs parce que il faut vraiment ressentir, je sais pas, cette espèce d'excès des passions, des sentiments par moment. Et à contrario, quand on retombe dans les choses sinistres, sérieuses, les intérêts matériels, il faut un peu les éteindre on devient un peu plus gris, un peu plus comptable de la couleur. Quoi.
Alors, ce qui est assez fou, c'est que, et là je me tourne vers Yann Brunel, c'est que dans l'hommage de l'écrivain anglais John Galworthy à Joseph Conrad, il explique que Conrad a vu l'opéra de Mérimée 14 fois, Carmen. Donc finalement, on est vraiment là, effectivement, dans quelque chose qui touchait aussi Conrad de près.
Oui, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'album, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de contraste entre un pays qui est très très agressif dans sa nature, avec moi je l'imaginais pas pour tout dire aussi mexicain, je voyais plus de jungle, etc. Mais ça fait ressortir quelque chose qui met plus de contraste encore avec ce genre de les scènes dont on a parlé, à savoir il y a certaines parties qui m'évoquent quasiment le western, en fait. Donc, quelque chose qui est vraiment âpre et que j'avais pas lu, en fait, dans Conrad. Et là, qui ressort dans cette adaptation. Et donc, ça, c'est vraiment une découverte. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, en fait, ce contraste. Voilà.
Oui, cette aridité-là, elle m'est venue. Très spontanément, pareil, enfin, quand je lisais le roman, moi, je voyais quand même pas mal de rocailles aussi. Et je la voyais d'autant plus que ça me faisait un peu penser à Zorro aussi, par moments, toutes ces situations. Zorro que moi j'ai vu en noir et blanc, comme tout un chacun à la télévision, pas en couleur du tout. Et puis, je raccordais avec le western, évidemment, Sergio Leone en particulier, dont les fresques font un peu penser, parce que Nostromo est une fresque, font un peu penser à ce déploiement de récits chorales, de personnages très, très, très épais, très emblématiques. Et puis, ben, en fait, pour tout dire, Nostromo, physiquement, dans mon esprit, s'était opéré une espèce de synthèse entre Corto Maltese, je l'ai dit tout à l'heure, et un acteur de Sergio Leone qui apparaît dans ses westerns, qui s'appelle Luigi Pistilli, qui joue par exemple dans Le Bon, la Brute et le Truand, le frère bénédictin. En fait, cet acteur-là, il n'a pas l'âge du rôle, c'est-à-dire il est plus âgé que Nostromo physiquement, mais je voyais quand même vraiment un peu cette formation du visage, avec un nez aquilin, des joues, un teint hâlé, les joues perpétuellement mal rasées. Enfin, ça, vraiment, ça venait comme ça.
Un visage extrêmement expressif, puisqu'on se souvient au moment où il quitte le fameux monastère dans le film, il y a un gros plan fixe sur son visage, absolument.
Oui, avec la lumière bien forte sur l'arcade.
Les révélations de son frère.
C'est ça. Oui, ça, c'est physiquement, je sais pas, il s'est mis à exister comme ça, en synthèse avec Corto, et c'est devenu...
Moi, j'ai retrouvé aussi beaucoup du lieutenant Blueberry, aussi. Pour l'aspect western, en fait, il y avait des résonances...
C'est toujours une tentation pour nous autres auteurs de bande dessinée d'aller un peu vers le western de temps en temps.
Ouais, bon là il y a quelques chevaux, mais c'est pas non plus ce qui domine.
C'est pas un western.
Non, c'est un western sur l'eau, ce qui est quand même très très rare.
C'est pourquoi en quatrième de couve on a mis un bateau.
Ouais, voilà. Donc Maëlle, quand on adapte un récit comme ça, c'est plusieurs années de travail. Mm-hmm. Donc là on a la première moitié plus ou moins de l'adaptation. Et quand est-ce qu'on aura la suite?
Alors, la suite va demander encore de longs mois de travail pour le dessin. J'ai juste terminé la dernière mouture du storyboard. C'est une première version mal dessinée, ou vite dessinée, et qui m'était impératif de finir pour connaître vraiment pour attribuer le bon rythme à chaque scène et connaître la bonne pagination. Et pour revenir d'ailleurs à cette scène de clôture du premier volume, j'ai commencé par storyboarder celle-ci pour être sûr que j'allais pas devoir l'amputer d'une ou deux pages pour des raisons éditoriales ou on est quand même soumis aussi à des impératifs éditoriaux. À partir du moment où on s'est engagé sur un certain nombre de pages, c'est bien de s'y tenir. Et bon, bah voilà, moi je sais vraiment maintenant comment je vais raconter la deuxième partie. J'ai devant moi, je pense, 10 mois de travail.
Ah oui, d'accord.
Et donc, et ce sera en travaillant à rythme très, très, très élevé. Donc, c'est probablement une parution à attendre pour dans un an ou peut-être 14 mois. Je saurais pas dire exactement.
Oui, après, il y a les contraintes éditoriales qu'on connaît, la programmation.
Il peut arriver que moi aussi, je sois arrêté pour une raison ou pour une autre, artistique ou d'autres contingences, mais sans doute, dans un an, j'aurai fini.
Et donc, ce sera la même pagination à peu près.
Un peu plus.
Le deuxième volume sera un peu plus gros.
Oui, parce qu'en fait, dans le roman, comme dans mon album, enfin, comme dans mon adaptation, il y a une troisième partie qui se termine un peu comme un épilogue. en réalité. Enfin, qui est la partie conclusive du roman demande qu'on y consacre du temps et de l'espace, parce que la dramaturgie est assez différente. Et ça me plaisait qu'on s'installe un petit peu dans le, avec une fin de récit qui respecte cet aspect-là que j'aimais beaucoup dans le roman, qui rend hommage à ce style particulier de Conrad, qu'on voit beaucoup comme romancier d'aventure, mais qui est aussi très très fin observateur de l'âme humaine. Donc ça me plaisait vraiment qu'on plonge dedans confortablement.
Et puis les couleurs vont être extrêmement différentes sur la fin, parce que c'est un tout, on va pas...
Oui.
On vous réinvitera pour parler de la
avec
fin
joie.
De Nostromo.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Yann Brunel, vous avez lu avec attention cette adaptation de Nostromo. Et donc, mais j'ignorais que c'était par là que vous avez découvert Conrad, donc ça tombait très très bien.
Oui, oui. Bon, après, comme je l'ai dit, ce qui était surprenant, mais c'est ça qui est très très intéressant dans les adaptations, c'est de constater à quel point, au-delà des simplifications éditoriales qu'on peut comprendre, le regard qui a été porté et les images dont Maëlle parlait tout à l'heure sont différentes d'un lecteur à l'autre, selon son histoire, son passé et aussi ce qu'il a lu avant, et en l'occurrence aussi son métier, sa manière d'envisager la lecture. Et donc c'était vraiment très intéressant d'avoir une adaptation aussi riche, aussi poussée, aussi pensée. Et donc oui, c'était vraiment un régal de lire cette adaptation.
Et alors vous êtes donc romancier, vous publiez vos romans aux éditions Gallimard, et vous êtes l'auteur de cette préface dans l'hommage à Joseph Conrad que publient les Cahiers de la NRF, qui reprend en grande partie l'hommage déjà publié au moment, enfin juste après la mort de Conrad, je crois, un numéro de la NRF qui était paru à l'automne 1924, c'est-à-dire il y a presque exactement 100 ans, Yann Brunel.
Oui, quand mon éditeur m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire cette préface, bien sûr, j'ai découvert cet hommage que je connaissais pas, et du coup, ça m'a permis déjà de me plonger un petit peu dans tout cet univers qui entourait Conrad. Et c'est quand même des sacrés auteurs qui ont publié cet hommage. Ça dit un petit peu la place qu'il a dans l'imaginaire de la littérature. Et oui, c'était une vraie chance de pouvoir se confronter à ces auteurs et puis de défendre un petit peu cet écrivain, qu'on a un peu remis de côté en disant. Oui, c'est un écrivain qui écrit des romans d'aventure, etc. Alors que pour moi, c'est vraiment un auteur majeur. Et voilà, c'était une chance.
C'est un auteur majeur, et vous commencez votre préface par revenir justement sur le début du Cœur des Ténèbres. Apparemment, c'est ça qui vous a le plus marqué, en tout cas dans vos lectures de Conrad, ce moment où le yawl Nelly évite sur son ancre dans l'embouchure de la Tamise.
Ouais, alors, c'est vraiment magique de commencer un livre comme ça, par une phrase aussi élégante, aussi parfaite. Enfin, vraiment, c'est une phrase parfaite. Alors qu'il écrit en anglais, il est polonais, il aurait pu écrire en français. Moi, je trouvais ça absolument dingue. Je comprenais même pas comment c'était possible d'arriver à une telle épure en une phrase, poser complètement l'ambiance, toute cette espèce de moiteur, de mélancolie. Il y avait tout en une phrase. Et pourtant, c'est pas sa langue maternelle. Je trouve ça vraiment fascinant.
Ah oui, ça c'est un des aspects les plus... Ça revient d'ailleurs dans l'hommage, hein, ils sont plusieurs à remarquer ça, que Joseph Conrad naît polonais, à Berdichev d'ailleurs, comme Vassili Grossman, qui naîtra un siècle après lui, et puis vit justement aventureuse. Il décide de choisir la mer après un séjour long à Marseille, où il apprend le français. Il aurait presque pu devenir un auteur français. On a raté Joseph Conrad, on ne sait pas pourquoi. Et puis ensuite, il s'engage dans la marine britannique et c'est après qu'il deviendra, dans la dernière partie de sa vie, un écrivain anglais. Mmh. Et pour un écrivain francophone, ou français comme nous, c'est effectivement, ça rend presque jaloux, non seulement cette vie, mais aussi cette possibilité d'être autre.
Ah oui, c'est... Oui, c'est tout à fait admirable. Après, effectivement, j'ai vu plein de fois cette histoire de « on a loupé un écrivain français, un grand écrivain français ». Moi, j'ai jamais vu ça de cette manière-là. S'il l'a écrit en anglais, c'est sorti en anglais, c'est comme ça que c'est venu, avec cette épure-là, cette spécificité-là. Et c'est plutôt une bonne chose que l'humanité et Joseph Conrad, plutôt qu'on ait un écrivain français de plus.
Oui, d'ailleurs, Joseph Conrad lui-même dit « La vérité est que la faculté d'écrire en anglais m'est aussi naturelle que toute autre aptitude que je peux posséder de naissance. »
Ouais, je pense que tout est dit.
Voilà, exactement. Ouais, donc ça sert vraiment à
ça
rien.
Ça s'est imposé à lui, exactement comme Maël parlait tout à l'heure des couleurs. Et il disait « ça s'est imposé ». Là, ça s'est imposé à lui, c'était l'anglais. Puis voilà. Et c'est très bien comme ça.
Alors, ce petit recueil est tout à fait passionnant parce qu'on voit non seulement, comme vous l'avez dit, l'intérêt qu'avaient les grands écrivains de français de l'époque pour Joseph Conrad. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, Gide, Valéry, Mauroy, Kessel, à peu près la pléiade de ce début, en tout cas de la NRF, participe à cet hommage.
Oui, ça rend un petit peu, enfin ça rend humble si on en avait besoin. C'est des sacrés noms qui sont là. Et moi, je trouve que c'est qu'il est un peu tombé en pas en désuétude, mais qu'il a pas la reconnaissance en France qu'il devrait avoir. À cette époque, il l'avait très clairement.
Et qu'est-ce que vous lisez, vous, dans justement Conrad au cœur des ténèbres aujourd'hui? Je suppose que pour écrire cette préface, vous avez dû vous replonger un peu dans son œuvre, vous avez relu quelques-uns de ses textes. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous fait dire « Ah, Conrad est un des auteurs qu'il faut lire encore aujourd'hui
?» Pour moi, il y a, après j'en parle un petit peu dans la préface, ce que je trouve, et c'est pas impressionnant, ce qui me prend aux tripes, c'est cet amour pour l'homme face à un destin qui va la plupart du temps le briser, qui transpire en fait de ses textes, que ce soit c'est assez souvent des marins, mais il peut y avoir tout autre chose, il peut y avoir des agents secrets, il peut y avoir que sais-je, et en fait ça me prend aux tripes, et le fait d'essayer de se coltiner avec la chute de l'homme, et Maël parlait tout à l'heure du fait que l'amour est malmené, etc. L'homme tout entier est malmené, et il a une espèce d'honnêteté à décrire ces forces-là qui essayent de souiller l'amour et qui arrivent pas, moi je trouve bouleversante.
Oui, au rapport au destin, au destin humain, qui est malmené, vous dites, mais aussi toujours en danger. Et c'est peut-être le danger qui ferait le principe du romanesque chez Conrad. Cette idée que tout peut basculer à un moment, et souvent pour des fautes qui sont celles des hommes eux-mêmes, et même de ces héros eux-mêmes.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on est en train de lire là, c'est la fragilité de l'homme, la fragilité de ce qui... il voudrait incarner quelque chose de plus que lui. On parlait tout à l'heure de quasiment transfuge de classe. On pourrait dire que l'homme tout entier, c'est une sorte de transfuge de classe. C'est une espèce d'animal qui voudrait être plus, qui voudrait être sublime, qui voudrait être un acteur d'opéra, qui voudrait vivre des scènes sublimes et qui, en fait, va trébucher, parfois sottement, sur pas grand-chose. Et ça, Conrad le dit très très bien, avec beaucoup d'empathie, on dirait, aujourd'hui.
J'ai lu des ouvrages, ce qu'on appelait jadis la littérature d'évasion, et simplement qui me font passer un bon moment, mais que je ne relirai jamais. Je parle de livres, en somme, qu'on ne relit pas. en dehors d'une lecture constante que j'ai fait, d'une relecture constante, c'est celle des œuvres de Conrad, que je relis en entier au moins une fois par an.
Pourquoi les relisez-vous ? Par plaisir ou par...
Écoutez, Conrad ne me ressemble pas comme écrivain, comme romancier, sauf peut-être pour Les Racines du Ciel, mais il m'apporte quelque chose d'absolument irremplaçable, en ce sens qu'il m'apporte une atmosphère dans laquelle je me perds chaque fois que je lis ses œuvres. Il me dépayse de moi-même complètement, et c'est un enchantement qui dure, en ce sens que chaque fois que je relis, cela me saisit. Et combien d'œuvres résistent à cette épreuve qui est la relecture ? C'est rarissime. Je ne voyage pratiquement jamais sans emporter leur Jim avec moi. J'ai deux volumes des œuvres complètes de Conrad en anglais, qui ne sont pas trop volumineux. Je les emporte toujours avec moi, j'en ai besoin. J'ai un besoin physique de relire du Conrad. Je l'admire énormément.
Yann Brunel, nous venons d'entendre l'écrivain Romain Gary dire son admiration de Joseph Conrad au micro de la RTF en 1969. Est-ce que vous voyagez aussi avec un volume des œuvres complètes de Conrad pour le relire en entier chaque année ?
Alors, pas aussi régulièrement, mais j'y reviens sans doute une fois tous les 10 ans. Il doit y avoir un livre qui revient, mais c'est pas aussi... je ne rends pas le même culte à Conrad que Gary.
Mais c'est quand même passionnant d'entendre Gary... dire que ce qui l'intéresse chez Conrad, oui, alors il méprise un peu les histoires d'aventure, tout ça, parce que il est un peu snob, Gary, quand même. Mm-hmm. Mais il y a aussi ce côté, c'est l'enchantement qui compte. Et est-ce que c'est pas aussi une très belle définition de ce qu'est un roman de Conrad, se laisser aller à l'enchantement?
Ah ben, déjà, c'est sûr que on voyage et donc souvent les paysages qui sont décrits, peuvent provoquer un enchantement. Les entrées dans les scènes de Conrad sont notamment assez stupéfiantes. On a l'impression soudain d'entrer dans le port avec le personnage qui entre ou avec la goélette qui arrive. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est une manière d'aller plus loin, c'est-à-dire de comprendre qu'on peut poser un regard aussi enchanté sur quelque chose qui est aussi précieux mais fragile, qui va être l'homme ou ce qui va essayer, etc. Que c'est une sorte de métaphore. L'enchantement que provoque le voyage, c'est comme un moyen d'aller à l'essentiel. Et donc, c'est en ça qu'on aura des... important.
Alors, ce qu'on apprend dans le volume d'hommage à Joseph Conrad, c'est des détails assez passionnants quand même. Gide, qui a été le premier traducteur de Typhon de Conrad en français. Mm-hmm. Typhon, qui est un roman un peu problématique, d'ailleurs pas... Mm-hmm. Enfin, c'est pas un de mes préférés pour beaucoup de raisons, mais Gide, l'intransigeant, nous apprend comment il a connu l'œuvre de Conrad, et c'est par Paul Claudel.
Mmh. Oui, mais après, bon, ça dit aussi un petit peu l'atmosphère qui régnait à cette époque, c'est-à-dire une flopée d'intellectuels qui discutent les uns des autres, qui sont curieux, qui se lisent les uns les autres, qui n'ont pas peur d'aller vers des livres qui sont en anglais. Voilà, tout l'intérêt, en fait, d'avoir un tissu intellectuel qui est vivant. Et ça, c'est vraiment, dans cet ensemble-là, de retrouver ça. Ne serait-ce que ça, en fait, ça fait plaisir à retrouver cette lumière, en fait.
Oui, tout à fait. Mmh. Même Paul, on imagine Paul Claudel, au détour d'une aventure chinoise, en train de lire Conrad, tout d'un coup, je sais pas, ça donne une espèce de sensation, un peu de solidarité,
tout à fait.
De fraternité. Tout à fait.
Et alors que dans les sensibilités, ne serait-ce que spirituelles, on sent qu'il va y avoir des choses qui sont complètement différentes, mais qui vont plutôt enrichir le débat, donc il y a une vraie curiosité les uns pour les autres. C'est très intéressant à lire.
Et Paul Valéry, par exemple. Mm-hmm. Paul Valéry, il remarque que Conrad parlait français avec un accent provençal, ce qui s'explique puisqu'il a vécu à Marseille. Mais on s'étonne aussi que quelqu'un comme Valéry puisse se passionner pour Conrad. Parce que ça correspond pas à l'image qu'on a peut-être de Valéry aujourd'hui.
Oui, voilà, mais c'est un peu ce que je disais pour Claudel, que des gens comme Claudel et Gide, qui sont quand même assez différents, puissent avoir la même passion, le même respect. Bah, c'est pareil pour Valéry. En fait, ça veut dire que on est à une époque où les hommes ont de la marge. Ils sont curieux les uns des autres. Et donc, c'est cette histoire de marge, de pas être dans une niche. Je vais m'intéresser qu'à une certaine littérature qui dit qu'un certain type de choses. Et là, en fait, d'avoir des admirateurs aussi divers que ce soit Valéry, Claudel ou Gide, ça dit un petit peu que Conrad, c'est pas une figure tutélaire, mais ça dit toute la portée de son œuvre.
Et on voit aussi, alors là, ce qu'on apprend sur Conrad lui-même, c'est sa passion pour Flaubert, par exemple. Ce que j'ignorais complètement et qui est assez curieuse, puisqu'on aurait du mal sans doute à retracer ou à retrouver dans les textes de Conrad, à moins que je les ai très mal lus, une passion flaubertienne.
Oui, effectivement. Et puis, tout le cadre bourgeois qu'il y a dans beaucoup de romans de Flaubert, on ne retrouve pas du tout ces choses-là dans ses romans. Après... dans Salammbô, il y a un petit peu de trucs un peu foufou, etc.
Il y a les voyages.
Donc bon, il y a des choses quand même. Enfin, de temps en temps. Après, je dirais pas que c'est une espèce de filiation. Hein, bien sûr que non. On peut tout à fait aimer des gens et écrire des choses qui sont complètement différentes. Mais moi, ça m'a pas plus étonné que ça. Enfin, c'est encore, je remets ça sur le compte de la curiosité. C'était des esprits qui avaient soif les uns des autres, qui voulaient pousser la littérature. Et donc, ça m'a l'air normal. Enfin...
Non, mais c'est même beau de retrouver comme ça, de voir apparaître des auteurs qu'on chérit par ailleurs dans l'œuvre d'un autre. Non,
oui, bien sûr.
Comme par exemple, Joseph Kessel. Alors lui, il s'intéresse au Conrad slave. Et il cherche à retrouver de la slavité, ou même une forme de slavitude peut-être, dans l'œuvre de Conrad, et il écrit ceci: Conrad est slave par son œuvre comme il l'est par son corps. Ce qui est quand même assez incroyable aussi.
Oui, après, peut-être qu'il avait pas mesuré à quel point les voyages de Conrad pendant sa jeunesse l'avaient éloigné de cette slavitude qui veut absolument lui coller dessus, parce que pour... ne serait-ce que sur les premières phrases dont on parlait, pour moi, c'est des phrases qui sont typiquement anglaises. Elles dégoulinent d'anglais. Et l'aspect slave de Conrad dans son écriture, je le lis beaucoup moins que dans d'autres auteurs. Voilà.
Alors, il faut en venir justement un peu au cœur de votre préface, Yann Brunel. Et c'est cette question du rapport entre Conrad et Dostoïevski. Puisqu'on apprend dans l'hommage que... à plusieurs reprises, d'ailleurs, c'est cité plusieurs fois comme un trait de caractère important de Joseph Conrad. Il détestait Dostoïevski. Et ce que vous reprenez dans la préface pour essayer de comprendre ce que peut signifier cette détestation.
Oui. Alors, bon, il détestait Dostoïevski, mais tout en reconnaissant qu'il était profond comme l'océan, ou je ne sais plus exactement quels sont ces termes, mais il a un respect immense pour la puissance littéraire. Et après, en fait, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est des écrivains qui, pour moi, quand je les lis, très très vite, je sens qu'ils sont pris aux tripes par l'amour qu'ils ont pour l'homme. Et pour moi, c'était vraiment un mystère que quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi puissant que Conrad puisse détester quelqu'un d'aussi inattaquable pour moi que Dostoïevski. Et donc, j'ai essayé d'imaginer un des mécanismes qui pouvait expliquer cette haine. Après, je ne sais absolument pas si c'est le cas, mais dans la représentation que je m'en suis fait, l'idée était que, puisqu'ils sont tous les deux pris aux tripes par l'affaire homme, comme disait Gary, puisqu'ils sont tous les deux pris aux tripes par ça, ils acceptent pas qu'on triche sur l'homme. C'est important parce que il y a des choses en jeu. C'est pas juste on va pondre des livres et puis voilà. Il faut dire quelque chose qui a un sens. Et donc, il me semblait qu'un des trucs que pouvait reprocher Conrad à Dostoïevski, c'était des conditions initiales, c'est-à-dire de partir dans l'affaire homme d'une description où en fait il existe un ciel, il existe une grâce qui est donnée de l'extérieur à l'homme. Et une grande partie de l'œuvre de Dostoïevski, elle peut se comprendre comme l'homme qui va malgré tout souiller cette grâce qui lui est faite de l'extérieur. Alors que Conrad, c'est pour ça que c'est si important pour lui la fraternité. L'homme, il n'y a rien qui lui est donné, il vit dans un quasi-western, c'est compliqué, on est loin les uns des autres, se toucher les uns les autres, c'est compliqué. Et donc, la moindre parcelle de fraternité, c'est un trésor, il faut le garder. Et c'est pour ça que des livres comme Lord Jim sont aussi dévastateurs. C'est-à-dire que quand il y a en fait une fêlure dans cette fraternité, quand il y a une souillure, on a gâché la seule chose qui avait un sens, un intérêt, une valeur pour Conrad. Et donc, c'est tellement important, c'est tellement viscéral pour lui de dire cette beauté de la fraternité qu'il me semblait que quelqu'un comme lui ne pouvait pas accepter que Dostoïevski triche, entre guillemets, fasse le saut dont parlait Camus pour dire, on va donner la foi comme condition initiale et après on va inscrire des romans avec poser le ciel et puis une chute de l'homme à partir d'en haut. Alors que Conrad, les hommes, ils sont au niveau de la mer souvent et puis il lutte pour s'élever.
Oui, c'est simplement même cette question de la possibilité du salut, qui est quand même une des problématiques de Dostoïevski, où les personnages chutent très certainement, mais parce qu'ils ne réussissent pas justement à faire son salut. Il n'y a pas de salut chez Conrad, à part dans La Compagnie des Hommes.
Oui, oui, exactement. À la fois, il affirme une fragilité parce que c'est une construction qui n'est que humaine. Il y a aucun recours extérieur, aucune aide extérieure, aucune grâce extérieure à attendre. Ça se fera par nous. Et du coup, c'est très, très fragile. Mais c'est la seule chose qui a de la valeur. Et donc, c'est d'autant plus dramatique, d'autant plus triste quand c'est gâché. Ça me fait très plaisir d'avoir entendu l'interview de Gary, là, où il parle de Lord Jim, parce que pour moi, c'est vraiment un sommet. Ça m'a dévasté, ce livre, cette espèce de...
Mais Lord Jim, justement, ça pourrait, ça a quelque chose de dostoïevskien. Justement, le personnage de Lord Jim. Évidemment, il faudrait changer complètement ses motivations. Mais ça pourrait, en tout cas, se rapprocher d'un personnage de dostoïevski.
Au sens où c'est des personnages tragiques et c'est des récits de chute continuelle, etc., bien sûr. Mais encore une fois, alors peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, j'ai parlé de conditions initiales, donc c'est des trucs de physicien, mais grosso modo, c'est de dire, avec les conditions initiales, on va un peu déterminer le mouvement ultérieur, et si on part d'en haut, bah, entre guillemets, on ne peut que chuter, ça c'est ce que dit Dostoïevski, enfin c'est une partie de ses romans, alors que pour Conrad, on part d'en bas du niveau de la mer, on s'est élevé difficilement, et donc on va retomber, donc c'est pas les mêmes conditions, donc même si le tragique est le même parce que l'amour qu'il porte pour l'homme est de même puissance, on va dire. Mais même si c'est le même tragique, c'est pas les mêmes trajectoires.
Et il faut en venir au personnage de Kurtz, qui est aussi justement un personnage qui pourrait, dites-vous, rappeler justement ou faire penser au personnage des démons de Stavrogin. Peut-être là, justement, dans le mystère que représente Kurtz pour Marlowe, il y a peut-être une faille presque dostoïevskienne.
Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant chez Conrad, c'est à quel point il fait pas parler ses personnages sur eux-mêmes. En fait, on découvre souvent les personnages en demi-teinte, à travers le regard, d'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure, d'autres personnages et de plusieurs autres personnages qui essayent de cerner qui a un aspect, qui a un autre, etc. Et en fait, on sait pas exactement d'où viennent ces gens, où ils vont, quelles sont leurs motivations. C'est jamais eux qui disent, au fait, je viens de là, etc. Et donc, ça, c'est aussi à lier enfin, on peut effectivement le lier à Dostoïevski, au sens où, bah, il y a un mystère dans l'homme et on peut jamais, en fait, comme tous les mystères, on peut jamais aller au bout de ce mystère. Donc, Dostoïevski laisse entendre que ce mystère, il vient de ce qui est transcendant dans l'homme, alors que Conrad, il va sans doute dire, non, on a une altérité radicale, qui d'ailleurs n'empêche pas la fraternité, c'est ça qui fait, voilà, mais il y a un mystère qu'on peut pas réduire, voilà, dans l'écriture de Conrad. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, Kurtz est très, très proche de certains héros de Dostoïevski.
Kurtz, c'est bien sûr le héros, je n'ose même pas prononcer le terme, le personnage, un des personnages centraux, en tout cas, qui n'est pas le narrateur, Au cœur des ténèbres, celui qu'on rejoint à travers la remontée du fleuve Congo, dont on entend parler. C'est d'abord aussi quelqu'un qui parvient par ce qu'on dit de lui, et puis qui va finalement être réduit, en tout cas dans la nouvelle de Conrad, à rien, à pas grand-chose, à part les traces de sa violence. Est-ce que c'est pas la question du mal, finalement, qui pourrait les rapprocher? Qu'est-ce que c'est que le mal, si ce n'est les traces du mal, en réalité?
Ben, en tout cas, effectivement, quand on a affaire à des personnages qui ne disent jamais pourquoi ils font ce qu'ils font, et en cela, Conrad est très anglo-saxon, au contraire, on n'a pas de discours sur... effectivement, du mal, il reste pas grand-chose d'autre que des traces, donc de ce point de vue-là, il est très anglo-saxon, alors que Dostoïevski va essayer de plonger, on va avoir des personnages qui vont dire « Non, je vais épouser une idiote dont tout le monde se moque, etc., et je vais le faire pour pouvoir assurer mon salut, et ça sera le seul acte positif que je vais poser dans ma vie ». Donc, effectivement, la question du mal, mais elle est centrale dans toute littérature d'intérêt, entre guillemets. Donc, oui, c'est certain que ça les rapproche, et c'est une des manières de se rendre compte que ce sont deux auteurs majeurs. Enfin, que Conrad, c'est quelqu'un de majeur parce qu'il s'attaque à la question du mal. Il fait pas comme si tout allait bien et comme si on avait uniquement des préoccupations bourgeoises.
Yann Brunel, peut-être, puisque vous avez relu pour nous Joseph Conrad, au moins une partie de son œuvre, pour écrire cette préface à ce numéro des cahiers de la NRF, qu'est-ce que Conrad nous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait de lui, alors que 100 ans après sa mort, encore quelqu'un justement que non seulement on a plaisir à relire, bien sûr, mais qui en même temps nous dit quelque chose dans le monde d'aujourd'hui ?
Moi, ce dont je suis parti pour la préface, et peut-être que je dirais ça, c'est que s'il en est venu à haïr Dostoïevski, ça veut dire qu'il y avait quelque chose en jeu. Et donc, en gros, ce qu'il nous dit et qu'on a peut-être tôt tendance à oublier, c'est que même si les constructions qu'on a sont nos uniques constructions, si on n'a pas une aide du ciel, etc., c'est pas pour autant que c'est sans valeur. Et donc, peut-être qu'il nous redit, dans le monde d'aujourd'hui où on peut avoir tendance à l'oublier, que ça a de la valeur. Ces petites constructions, cette amitié, cet amour, etc., ça peut être des petites choses à l'échelle d'un ciel qui est vide et immense, mais c'est pas rien. Et donc ça, je pense que c'est un message qui est très, très important.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de fraternité à travers le déplacement, le voyage, justement, la transformation? Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait un peu l'humanité, cette possibilité d'aller vers l'autre pour le meilleur ou pour le pire?
Ah oui, c'est sûr. Et après, son écriture, elle est imprégnée de voyage et d'ailleurs. Et donc, ça permet aussi de pas vivre dans un univers uniquement bourgeois, avec toujours les mêmes interactions, avec toujours les mêmes personnes, et se rendre compte que des histoires fortes, elles peuvent se créer dans n'importe quel cadre, dans n'importe quel pays, avec n'importe quel type de personne. Donc oui, c'est aussi un autre message, que cette fraternité, elle doit pas s'entendre, disons, uniquement de manière quotidienne. Elle a aussi une résonance à l'échelle de l'humanité tout entière.
Mais même pour aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde global, finalement, c'est pas des écrivains comme Conrad qui peuvent être lus aujourd'hui justement parce qu'ils ont en eux juste cette possibilité d'une
universalité
ou d'une littérature de l'univers, peut-être, ou des humains, en fait, de cette fraternité.
Oui, c'est ça. C'est en ça qu'il se rapproche un petit peu d'un Gary aussi. C'est des gens qui ont beaucoup voyagé et qui vont embrasser avant leur temps, en fait, toute l'humanité et se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau et que qu'on n'a que nous pour construire ce qu'on a à construire et que ça n'est pas sans valeur. Donc, effectivement. Après, ça peut aussi avoir un intérêt de lire des auteurs qui s'adresse de manière extrêmement bornée à la description d'un univers qui est extrêmement borné, au-delà du folklore, juste pour connaître ce qu'a été l'humanité à certains moments, à certains endroits.
Oui, et Conrad permet ces deux choses-là.
Oui, de faire les deux, exactement.
Merci beaucoup, Yann Brunel. Merci. Je rappelle que l'hommage à Joseph Conrad, préfacé donc par Yann Brunel, est paru dans les cahiers de la NRF et que l'adaptation de Maël, de Nostromo, toujours de Joseph Conrad, paraît chez Futuropolis. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Valérie Lavalard à la technique. La préparation en est assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne fin de samedi sur France Culture.